Vous voyez, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je ne peux pas commenter ça, ça prend déjà une demi-heure. Si, c'est vrai, ça prend du temps, c'est très important. Et on dit souvent des banalités, mais c'est très dangereux. Parce que si on rate les premières marches d'un escalier, on ne sait pas monter l'escalier. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il faut que je vous dise que le mot ici, ce n'est pas créé. Le verbe créer n'existe pas dans ce verset-là. Alors, nous allons voir dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 4, versets 6 à 8. Il faut faire attention, nous avons des habitudes théologiques, des habitudes ecclésiastiques. Moi, j'avais toujours été intrigué que Jean Chrysostome, un responsable d'église en Turquie au IIe siècle, avait dit que cette lumière, dans Genèse, chapitre 1, verset 3, était le Christ. Et je me dis, c'est un homme qui le dit, donc je ne peux pas croire ça. Je pensais que c'était la lumière des étoiles, du soleil, tout ça. Et puis j'ai constaté que la lumière des étoiles et du soleil, c'était au verset 14 et au verset 21, quand Dieu créait les astres brillants, donc du plutonium en fusion. Hein, c'est l'immense réacteur, les étoiles et le soleil. Hein. Et c'est au verset 14 et 21, donc cette lumière incréée. Et je suis tombé un jour, quand on lit régulièrement la parole de Dieu, on finit, parce que Dieu nous le fait sauter dans les yeux et dans l'âme. Parfois ça prend beaucoup de temps, on la lit 100 fois, puis c'est la 200e fois qu'on tout d'un coup c'est clair. Eh bien regardez, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, donc... Que ce soit un serviteur de Dieu ou tout simplement tout chrétien un serviteur de Dieu, hein, n'oublions pas, ou quelqu'un qui veut être missionnaire spécialement ou pasteur, c'est un ministère à part, on ne se prêche pas soi-même. D'abord, c'est exclu. C'est exclu. À Dieu, les stars, à Dieu, le business, etc. C'est le Seigneur qui est le premier dans tout ministère, de tout chrétien. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Donc, Kerutso, proclamé, nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Donc, toute personne qui annonce Jésus, donc en principe tout chrétien, est serviteur des autres. Ça, c'est carrément une bonne carte de visite, hein, pour le chrétien et pour un pasteur, un missionnaire. Dieu qui a dit, et là vous voyez Genèse 1-3, c'est l'apôtre Paul qui donne... l'interprétation, l'herméneutique, comme on appelle ça, l'interprétation de Genèse 1-3. Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Donc, c'est une révélation, c'est un don de Dieu en nous. C'est là que commence la vraie foi. A fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Resplendir la gloire de la connaissance de Dieu. Rappelez-vous, tout à l'heure, votre pasteur a dit que les trois premiers points, il y en avait trois, hein, connaissance, compassion et quoi, consécration. Hein. N'oubliez jamais, il faut apprendre à mémoriser ce qu'on entend, analyser, résumer et bien retenir. Parce qu'autrement, on vit comme des moustiques, on oublie tout aussi vite qu'on l'a rentré. Hein. Ça ne sert à rien, oublier distrayeux. Celui qui est distrayeux, oublieur, ça ne va pas, il n'avancera jamais. Il faut avoir une méthode, il faut essayer de résumer tout ce qu'on entend. Hein? Eh bien, pratiquement, la connaissance, le premier point qu'a cité Joseph tout à l'heure, faire resplendir la connaissance, c'est vraiment une manifestation lumineuse qui remplit l'âme, qui illumine les yeux du cœur, comme dit Paul dans Éphésiens chapitre 1, et... la connaissance de la gloire de Dieu. Donc, nous avons perdu la gloire de Dieu. Nous avons perdu la connaissance de la gloire de Dieu. Et tout d'un coup, on en reçoit le cadeau par une lumière venue d'en haut, de Dieu. C'est ça qui était déjà dit dans Genèse, chapitre 1, verset 3. Et pratiquement, cette connaissance de la gloire de Dieu est sur la face de Christ. C'est par Jésus, le Christ, que je connais la gloire de Dieu. C'est par Jésus que je connais la manifestation divine. Alors, vous vous rappelez dans Jean, chapitre 1, versets 14 à 16. Prenez Jean, vous allez voir, c'est très important. Il faut pouvoir résumer la Bible. Parfois, très rapidement, quand on tombe sur quelqu'un, il faut pouvoir dire des choses, paf. Même s'il ne les comprend pas tout de suite, ne tracassez pas, le Saint-Esprit se chargera bien de lui expliquer un jour. Par d'autres rencontres, par un songe, un rêve, par des lectures, n'importe. Dieu est trop grand que pour sous-estimer sa compétence. Quand on a dit quelque chose de juste à quelqu'un, ne sous-estimez pas la suite. La compétence appartient à Dieu. Ok ? Parce qu'on croit alors, il faut tout expliquer, il faudrait recourir après la personne. Mais il m'est arrivé des fois que le Seigneur me disait dans mon cœur, tu lui annonces mon nom, ma personne, et tu ne t'en occupes plus, tu le laisses. Et à d'autres, tu dois t'en occuper 25 ans, 30 ans. C'est clair que ce n'est pas toujours la même chose. Dieu n'est pas, il ne fait pas de nous des singes, hein, qui font toujours la même chose. Il y a des injonctions bien précises dans le cœur de quelqu'un qui veut être pasteur ou missionnaire, mais c'est la même chose pour un chrétien s'il se laisse conduire. Peut-être proportionnellement moins de boulot, mais en attendant, dans ce domaine-là. Jean, chapitre 1. Donc, verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Vous avez compris ? Donc, ça rejoint Genèse 1:3 et 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 6 à 8. Elle était dans le monde a été fait par elle, et le monde n'a point connu. Donc, il faut une révélation, il faut un resplendissement dans le cœur, dans la conscience. C'est un don de Dieu, la foi. Et regardez au verset 14, Jean 1:14, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Le mot habiter, c'est un mot qui, en grec, qui veut dire comme les juifs, ils étaient dans le désert, ils campaient, ils bougeaient de place. Menaïn, c'est on avance, on est en pèlerinage, on avance vers la terre promise, nous on avance vers le ciel, et on est des voyageurs, des pèlerins. Il faut quitter toute idée qu'on s'est installé sur terre, comme elle l'est en tout cas. Comme elle l'est, c'est pas brillant. Alors, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc Dieu nous accompagne dans notre marche de pèlerins, de voyageurs sur terre. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous avons contemplé la gloire du Fils unique venu du Père. Donc c'est clairement ce que Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 6 à 8. Et c'est clairement ce que Dieu voulait dès le départ dans sa révélation au chapitre 1, verset 3. Donc ça c'est une priorité, c'est une primauté de Jésus d'être notre lumière et d'être l'instrument qui révèle la gloire du Père dans nos vies. Alors il ne faut jamais douter de ça, il ne faut pas être prétentieux et commencer à casser la tête à des gens qui ne croient pas ou des musulmans, etc. Il faut être très patient, il faut savoir attendre, mais il faut un jour le dire. Généralement quand quelqu'un est travaillé par Dieu, il a soif et il y a un moment pour lui dire. Dans cette semaine, il y avait un couple qui venait de Cap d'Ac, c'est-à-dire du sud de la France. Ils étaient quatre, deux enfants, un adolescent et une petite fille, et deux adultes. Ils viennent pour 15 jours. On a souvent des gens de passage comme ça d'un peu partout, même parfois du Maroc ou d'autre part. Mais ce qui se passe, on les accueille. Que Dieu fasse dans sa volonté, qu'il fasse ce qu'il faut faire. Mais nous aussi, on doit se mettre à son service. Et donc, ils ont été fort occupés. Nous, on a dû partir ranger dans une église, où c'est assez rare. On va peut-être tous les ans, une fois. Et ce sont des bons amis. Et les deux pasteurs sont partis. Il fallait vraiment, j'avais le souci d'encourager cette assemblée. Et de ne pas la lâcher. Et pratiquement, je vois que Dieu agit, alléluia, et que cette église, à un moment donné, elle allait disparaître, boum, elle est là, elle revit, elle se prend en main, et Dieu merci, le travail de ces deux pasteurs qui étaient d'origine américaine est en train de se lever. C'est comme la pâte, le pain avec la pâte, tout d'un coup, ça lève. Et on ne voit plus le levain, on ne voit plus la levure. Ah oui, ils sont partis, les deux pasteurs là, le père et le fils, Mais pratiquement, voilà que ça lève. Mais c'est magnifique. C'est magnifique et c'est comme ça souvent avec Dieu. C'est dans son mystère, dans sa volonté que tout se passe. Hein. Ce n'est pas à nous de diriger les opérations. Bon, pratiquement, vous avez vu au verset 18, Jean chapitre 1, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. » Donc, c'est quelque chose qui est fondamentalement l'axe du christianisme. L'axe premier et dernier. C'est comme ça que Paul parle dans la deuxième aux Corinthiens, et c'est comme ça dès le départ de la Bible, au Genèse 1-3. Bon, maintenant, il y a eu la catastrophe du péché. Et ça, c'est pas rien. Alors, quand vous êtes dans Jean, chapitre 1, verset 29, je fais en sorte que vous regardiez et qu'on fasse un enchaînement, il y a eu cette catastrophe très grave du péché. L'homme ne connaissait pas la mort, la maladie, ni la guerre, ni les disputes, ni la haine, ni la corruption, ni les vices sexuels, ni... Il n'y avait rien de tout ça, ni la dépression. Et il y avait une relation avec Dieu, une connaissance de Dieu, et une participation à sa gloire. Et puis, crac, parce qu'on a voulu être soi-même son propre Dieu, être dans l'autonomie, savoir discerner le bien et le mal nous-mêmes, et fixer ce qui était le bien et le mal, juger de nous-mêmes tout, on perd quasiment tout. En tout cas, la gloire de Dieu, elle est perdue. Et regardez bien, il y a un autre aspect de Jésus, c'est Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, donc Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit ça à 11 disciples, qui seront les 11 apôtres qui vont rester après la résurrection. Le 12e vient de Judée, c'est Judas, et il est formé plutôt dans la politique, la volonté qu'Israël soit dans la suprématie, dans la victoire sur les autres nations, etc., dans la puissance. Mais ces 11-là ont été formés à l'école du prophète, ils ont entendu les prophéties de l'Ancien Testament, et ils savent qu'il y a quelqu'un qui est l'agneau qui ôte le péché du monde. Ésaïe 53, bien sûr. Hein? L'agneau de Dieu qui est sacrifié comme pour nos péchés. Ésaïe 53, il faut le lire, les amis. Et pratiquement, il y a Genèse chapitre 22, quand sur le mont Morija, Abraham sacrifie le mouton à la place de son fils Isaac. Que Dieu dise, ici, je pourvoirai pour le péché des hommes. Ok ? Eh bien, l'agneau est dès le départ de la Bible. Retournons au début de la Bible. Au chapitre 3, Genèse chapitre 3, verset 21. Adam et Ève ont péché et ils sont complètement dans le chaos. Ils ont peur de Dieu. Pourtant, Dieu s'approche toujours d'eux. Dieu est plein de compassion et d'amour et s'approche d'eux. Et puis, ils voient bien qu'ils sont dans la misère, ils ont peur de lui et... ils découvrent leur nudité. Ils ont perdu la gloire. La gloire qu'ils partageaient avec eux. Et pratiquement, il va voir qu'ils ont essayé de se donner une contenance, des œuvres, des mérites, au cas où Dieu arriverait à la surprendre, les retrouver, il faudrait quand même qu'ils aient des qualités. Donc c'est l'image des feuilles de figuier qui sont sur eux. C'est la religion des mérites. Des œuvres humaines. Et ça ne marche pas avec Dieu. Ce n'est pas la vraie gloire, ça. C'est que du mensonge. C'est de l'artifice. Et Dieu va mettre sur Adam et Ève un vêtement, une peau. Verset 21, chapitre 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, les en revêtit. Donc, il met une peau d'agneau sur eux. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu un agneau sacrifié, en vue de Jésus, l'agneau sacrifié, pour leur péché. Donc il y a une promesse pour Adam et Ève et toute sa descendance, que quels que soient les drames qui vont arriver, les malheurs qui vont arriver sur les descendants, il y aura un jour un Rédempteur qui va donner sa vie pour eux. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Prenons Romains chapitre 5, verset 14. Romains 5, 14. Paul cet homme de Dieu qui a tellement bien connu l'Ancien Testament et puis qui a connu la gloire de Christ d'une façon phénoménale, il donne des interprétations exactes des textes de l'Ancien Testament, ainsi que Jean et tous les autres apôtres. Romains chapitre 5, verset 14. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Elle a régné, c'est-à-dire la mort, la séparation de Dieu était totale. Avec Moïse, il y a des règles. Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, etc. Déjà, on pourrait prendre ses responsabilités et dire je veux vivre avec Dieu. Donc je ne fais plus ça parce que Dieu me dit que c'est mauvais. Je veux me rapprocher de Dieu. Donc c'est vraiment pour la loi est comme un révélateur. Tu es séparé, regarde tout ce que tu ne dois pas faire. Mais celui qui est honnête se dit j'y arrive pas. C'est impossible. Donc il est malheureux de son péché et il attend quelqu'un d'autre s'il n'y arrive pas à se débarrasser de son péché. Et donc pratiquement jusqu'à Moïse, on était complètement dans l'inconscience, mais avec Moïse et les 10 commandements, il y a un indicateur que nous sommes pécheurs, il y a un indicateur que nous avons besoin d'être sauvés, et que ça n'ira jamais par nous-mêmes. Alors, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Donc, tout le monde est dans la séparation éternelle et dans la mort physique. Hein ? La mort a deux sens, hein ? C'est d'abord séparation éternelle de Dieu. Et puis voilà, il y a quelque chose qui est ajouté. Adam est la figure de celui qui devait venir. Le mot en grec veut dire que je prends l'image à la poste d'un facteur qui prend son tampon, qui tape sur le tampon, il y a de l'encre, et paf sur la lettre. Qu'est-ce qu'on voit sur la lettre? L'image qui était sur le tampon. Et l'image qui est là-dessus, c'est tupon en grec. C'est l'image du sceau. Le sceau, c'est Christ. Le sceau de Dieu, c'est Christ. Sur Adam et Ève, boum. Boum. La marque de Christ est sur Adam et Ève. C'est ça, l'habit de peau sur Adam et Ève. Parce que le mot ici, stupone, c'est ça. C'est la marque du sceau, de la grâce. Paf. De quelle grâce? De Christ qui sauve. Donc, pour Adam et Ève, pour nous tous, tous les pécheurs, il y a une marque. Nous sommes destinés à être sauvés par Christ. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, quand notre frère Joseph disait « Dans la vie chrétienne, il y a la connaissance », c'est des choses de base que je viens de vous dire, qu'il faut qu'il soit clair. La connaissance, la compassion. Alors, la compassion, c'est justement parce qu'il y a une catastrophe, l'homme est perdu. Il ne sait même pas qui est Dieu, il faut avoir cette compassion. Alors, prenons Genèse chapitre 12, deuxième étape. Et Genèse chapitre 12, c'est l'appel d'Abraham. Mais c'est plus qu'un appel, il y a des promesses. Genèse chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham. Donc, il faut bien se dire ceci. Nous, on voit toujours ce texte, c'est des Juifs, c'est des Hébreux. Je voudrais bien que vous compreniez. Abraham, à cette époque-là, c'est un Irakien du sud de l'Irak. Il n'est ni juif, ni hébreu, ni rien du tout. C'est un pêcheur. Il y a des ziggourats, des temples. On fait des sacrifices humains. On fait de l'astrologie. On fait de la divination. Il y a plein de dieux dans les cieux qui se battent. Donc, les hommes se battent parce qu'ils sont habités par les dieux. Tout d'un coup, Dieu, le vrai Dieu, le seul Dieu, se révèle à Abraham. Et Abraham accepte. Il y a un seul Dieu. Il est saint. Il nous aime. S'il y a du mal sur la terre, c'est à cause de l'homme, pas à cause de Dieu. Et s'il y a du mal dans mon cœur, c'est à cause de moi. J'en suis responsable. Et donc, je dois me présenter devant Dieu en demandant pardon, en confessant ma nature mauvaise. Abraham sait que s'il demande pardon à Dieu, Dieu peut le déclarer innocent. Donc, Dieu, à cause de la foi d'Abraham, imputa sa justice, c'est-à-dire son pardon, à Abraham. C'est un verset un peu plus loin dans Genèse, n'est-ce pas? Mais ce qu'il y a, il a fait des promesses, Dieu a fait des promesses à Abraham. D'abord des conditions. Tu quittes toute ton éducation, ton pays, tout ça, alors que toutes les populations, l'archéologie le prouve, venaient au sud de l'Irak parce qu'il y avait la prospérité. Chez nous, dans notre coin, il y a des gens de toutes les nations qui viennent, parce qu'il y a le Luxembourg, les banques, le fric. Hein. Et, vas-y, vas-y, des salaires de 4-5 000 euros, 8 000 euros, tout le monde y court, de partout. Hein. Alors, pratiquement, ça pourrit la tête et l'âme. Ils ne sont pas plus heureux. Ils vivent tous avec des belles Audi, des belles BMW, des grosses voitures. Vous verriez que ça coûte de vivre dans la région du Luxembourg. Il ne reste rien à la fin du mois, ils n'ont que des emprunts. Où est la place de Dieu? Bien, ça, c'était comme ça à l'époque d'Abraham, dans cette région extrêmement prospère. Abraham fait le contraire de tout le monde, parce qu'il découvre que Dieu ne veut pas qu'il soit dans une vie pervertie, où on idolâtre le bien matériel. Il part du sud de l'Irak, au Rang Caldé, et il remonte vers le nord de la Syrie, Charan, et puis il va en Judée. Dans des déserts et des collines, avec des moutons. Il y avait des moutons. Moi, les moutons chez nous, je leur brosse les dents, je mets un peu de dentifrice. Vous savez pourquoi? Pour qu'ils aient la laine fraîche. Oui. Mais pas Abraham, il ne leur mettait pas du dentifrice. Voilà. Alors, pratiquement, Abraham fait une rupture. Fait une rupture. Alors, la rupture avec la société de péché, la société perverse, et la société qui vous matraque, qui veut vous dominer. Attention ici, hein? Attention ici! C'est voilà pour nous. Cette société veut nous dominer, veut nous conduire à notre perte. Parce que toutes les valeurs sont sans Dieu. En plus, il y a les démons qui nous y poussent, hein? En plus du péché et de la société. Nous avons trois ennemis. Hein? Le monde, le péché et Satan. Alors, pratiquement, peut-être un quatrième, la lâcheté, quand on ne se décide pas clairement. Alors, pratiquement, vous voyez ici, je ferai de toi, verset 2, une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Effectivement, sur les descendants, il y a beaucoup de descendants à Abraham, et il y a donc les nations arabes, il y a la nation juive. Et il y a toutes sortes de peuples qui en dépendent. Mais maintenant, il y a autre chose. Regardez bien. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, au verset 3. Donc, dans tous les descendants, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Ça, c'est clair. Dans la descendance d'Abraham, il y en a des deux sortes. Mais il y a une autre promesse, c'est celle pour toutes les nations. Et ça, ce n'est pas lié à la descendance génétique. Ce n'est pas lié à une descendance génétique. Tout le monde n'est pas descendant génétique d'Abraham et de Sarah. Ni d'Ismaël, ni d'Isaac et Jacob. Il y en a plein d'autres. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, tout à l'heure, quand vous avez lu que Jésus a fait des promesses et il a dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous allez apporter ma parole en Judée, Jérusalem, en Judée, en Samarie, et dans toutes les nations. Ça, c'est l'ordre de tous les actes des apôtres. Les actes des apôtres, c'est la Judée, la Samarie, les nations. Hein. Ça se divise en trois. Bon, pratiquement, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, la compassion, c'est de n'avoir aucun frein de péché contre les autres. Aucun frein. Moi, je suis chrétien, c'est pour nous, les Belges, ou pour nous, les Américains. Je suis chrétien, mais c'était à l'époque de Matthieu, de Jean, Pierre, c'est pour nous, les Juifs, chrétiens. Jésus, c'est pour les Juifs. Mais non, jamais Dieu n'a voulu ça. Toutes les nations ont son bénéfice. Vous voyez ça? Maintenant, prenons Romains 11. Romains 11. Toutes les nations sont bénéfice de la bénédiction. Donc, quand le Christ, l'agneau de Dieu, donne sa vie sur la croix pour tous les péchés du monde, c'est le plan de Dieu. Parce que le sceau était sur Adam et Ève. Or, nous descendons tous, toutes les races, d'Adam et Ève. Donc, ce sceau dit bien, et comme la promesse aussi faite à Abraham, que c'est pour toutes les nations. Donc, l'esprit missionnaire fait partie de la foi. Alors, Romains chapitre 11... Un chrétien qui ne veut pas être missionnaire, c'est un chrétien démissionnaire. Démissionnaire. C'est foutu. Il trahit déjà la nature même de l'appel de Dieu, de la volonté de Dieu. S'il n'est pas dans la volonté de Dieu, Matthieu 7, 21, vous m'avez dit Seigneur, 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 arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, car vous n'avez pas fait la volonté de mon Père. Pan. C'est clair avec Jésus. Ce n'est pas le tout de faire des salamalek, des prières et des chansons. C'est d'être dans la volonté de Dieu. Alors, Romains chapitre 11, nous voyons bien ceci, au verset 25. Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, donc cette volonté de Dieu qui va se révéler peu à peu à travers les siècles, par le Saint-Esprit, à travers tous les hommes, afin que vous ne regardiez point comme sages. Donc, les premiers chrétiens se regardaient comme sages, ils allaient fermer les portes. C'était Jésus, mais en même temps la synagogue. Jésus, en même temps le temple. Eh bien, Dieu a réglé le problème. On a rasé le temple, et puis on a déporté tout le monde, il n'y avait plus de synagogue. Comme ça, les chrétiens étaient partout, dans toutes les nations. Puisque la Pentecôte avec les dons des langues n'avait pas suffi, mais qu'on se refermait comme les écrevisses en dessous de la pierre, en disant « Chrétiens, c'est nous, c'est pas eux !» Eh bien, Dieu a rangé, orchestré les choses pour que ça éclate. Et ça a éclaté, dans le bon sens. « Afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, pas tout, puisque tous les premiers chrétiens sont juifs, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Donc, la totalité des païens est dans le plan de Dieu. Comme c'est mis avec le sceau sur Adam et Ève, comme c'est dit dans la deuxième promesse faite à Abraham, et comme dit l'Épître aux Hébreux, il y a un serment de Dieu, en plus, pour dire que c'est du sérieux. Alors, la totalité des païens sont entrés. Pratiquement, aujourd'hui, il reste 300-400 millions de personnes, et c'est tout des dialectes. Et vous savez qu'il y a des sociétés missionnaires qui traduisent la Bible. Nous, on a dans nos amis, on en a qui ont fait ça, et qui font ça. Pratiquement, il y a quand même une grosse partie du monde qui a une Bible, et qui peut l'entendre. Ok ? Moi, quand j'enregistre ceci, c'est assez bizarre, c'est qu'en français. Et encore. Je suis un petit pasteur du coin dans un village. Alors, je ne passe pas à la télévision, j'ai pas assez de sous, je peux faire que ce que je peux faire, comme Dieu l'a voulu. Mais pratiquement, c'est bizarre, il y en a au Kazakhstan, il y en a en Arabie, il y en a dans des pays qui écoutent. C'est bizarre, ça. C'est quand même bizarre qu'ils écoutent. C'est bizarre, ça. Je me dis, même aux États-Unis l'année passée, 1300 personnes. C'est quand même bizarre, ça, aux États-Unis. Ils parlent anglais seulement, anglais. À mon avis, c'est fou. Ils ne parlent pas qu'anglais. Alors, pourquoi est-ce qu'il y en a dans les autres pays? Donc, la prédication, elle va à travers le monde, comme disait Paul, l'évangile est annoncé, et ça nous dépasse. Alors, lisons au verset 26, « Tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés. Ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. » Qu'est-ce que fait Israël aujourd'hui? Apparemment, quand on regarde la télévision et la radio et les journaux, Israël, c'est le business. 67% des brevets scientifiques, tous les brevets, ce sont des juifs. Ils sont 18,5 millions de juifs, dont 3-4 millions en Israël. 8 millions en fait. 8 millions ? 7 millions. Ah bon. Alors, pratiquement, ce qui se passe, sur les 67%, il y en a 54% qui sont vus sur le territoire d'Israël. Mais les brevets, ça rapporte des sous. Et ça, ça accomplit les prophéties d'Isaïe, chapitre 60, 61. Je sucerai le lait des nations. On amènera toutes les richesses des nations vers moi, vers Israël. Voilà un accomplissement. Ça peut avoir des effets bénéfiques et des effets pervers. Ça dépend comment on le prend. C'est pas parce qu'on est un pauvre qu'on est sauvé. C'est pas parce qu'on est riche qu'on est sauvé. C'est l'état du cœur, de l'âme. Hein? C'est la réponse à Dieu. Eh bien, pratiquement, moi j'ai été en 2008 en Israël et je suis tombé. Je ne vais pas vous donner le nom du village parce que ce serait trop grave si ça passe partout. Il y a dans une région, moi j'ai visité à pied cette journée-là, je suis monté dans la colline avec trois amis, on est tombé sur des arbres, des fleurs, il y avait une petite abbaye avec quatre prêtres italiens, et c'est le tombeau d'Étienne. Et là, Ben, on visite. Il y a des mosaïques, c'est beau. Pour nous, les Européens, on prend des photos, on reste là-dedans 2-3 heures, on contemple. Vive le patrimoine et les pierres. Hein? C'est comme ça, surtout en France. Moins il y a Dieu, plus il y a d'adoration pour les pierres et les statues. Comme ça partout d'ailleurs. Plus il y a Dieu, moins il y a besoin des pierres et des statues. Et j'étais assis et je regardais, je vois tous ces gens qui arrivent, et on vient. Ils font tour, et puis ils s'éclipsent, et puis un peu après, ils retournent. Je demande à un des prêtres, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire, puisqu'ils ne regardent pas tellement que ça, l'Église? Chez nous, en France, en Belgique, ben ça serait... Il y aurait même des cartes postales, il y aurait des... L'État aurait fait un pavillon, il vient tellement de monde, il y aurait un pavillon pour faire des projections. Ben non. Tout simplement, derrière l'Église, sous un toit, il y a des milliers de Bibles, des milliers, au moins l'équivalent d'un smirmorque, avec la Bible, Nouveau Testament compris, en roumain, en bulgare, en chinois, en français, en anglais, en russe, tout ce que vous voulez, imprimé par des juifs messianiques, des juifs qui croient Jésus, amené en secret derrière l'église, sous le toit, et il y a 100 à 110 000 juifs qui viennent par an chercher une Bible avec le Nouveau Testament. Et ça, c'était en 2008. Et nous sommes tombés l'année passée à un mariage à la frontière luxembourgeoise, en France, d'une amie. Et dans le groupe qui était là, en train de manger, il y avait un homme et une femme, Helmut et Myriam, qui apportent toutes les semaines une camionnette remplie de Bibles. C'est leur église messianique qui assume cette tâche à Jérusalem. Si on met la même chose à Jérusalem, les Lubavitch avec les grands chapeaux et les Krolls brûlent tout. Parce qu'il ne faut pas parler de Jésus. Jésus ne fait pas parler de la Bible. Il n'y a pas de Jésus dans la Bible. Donc on brûle tout, on casse tout. Et là, en secret, 100 à 110 000 personnes viennent chercher une ou des Bibles. Je dis aux copains, puisqu'il nous a dit ça, on va descendre par la route à pied, on va regarder le nombre de voitures et de gens qu'il y a dans les voitures, on va les compter. Et effectivement, il montait et descendait beaucoup de monde. Donc Israël est en train de chercher Jésus, et déjà depuis quelques années, les amis. Ce n'est ni à la télévision, ni à la radio qu'on vous le dira. Ce sont tous des gens à pied comme vous, qui bossent tous les jours, et qui sont des juifs, qui veulent connaître Jésus du Nouveau Testament. Donc le tour de la prophétie est réalisé, quasiment réalisé. Le figuier est en train de reverdir. Quand Jésus l'a dit, quand le figuier va reverdir, ils me diront, béni soit celui qui vient au nom de l'Adonai, du Seigneur. Ok? Donc, nous ne sommes pas loin de l'accomplissement de la mission. La mission est en train de se terminer. Le temps de l'Église est en train de se terminer, et l'Église sera enlevée, et Jésus sera accueilli. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Psaume 118, et puis Matthieu 21, Matthieu 23, les prophéties de Dieu sont des certitudes. Le grand malheur, c'est qu'en Europe ici, dans la zone Namur et tout le reste, qui n'est pas protestante, j'étais prêtre catholique. Un des dogmes qui fait partie des certitudes catholiques, c'est que les prophéties sont allégoriques, symboliques, et n'ont pas de consistance historique. C'est un des dogmes. Vous ne le croyez pas, mais je l'ai étudié. Ça vient d'Origène d'Alexandrie. Origène d'Alexandrie a lancé ce truc, cette salade, et elle a continué. Or, si vous voyez bien 1 Thessaloniciens chapitre 5, vous allez voir que c'est tout le contraire que dit la parole de Dieu. Chapitre 5, verset 16 et suivant. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Verset 19, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Verset 20, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Eh bien, je vous le dis, ce que j'ai vu en Israël, et ce que nous avons vu comme confirmation à ce mariage, les deux personnes-là, c'est clair, on peut examiner les choses, la mission est bientôt finie, parce que la venue de Jésus n'est pas loin. Et Israël, même si ça n'apparaît pas à ta vision comme le pompon d'Israël, hein, on mettra plutôt un avion de chasse, on mettra plutôt des bagarres à Hamas et tout le bazar, pour nous distraire. Et pour ne pas dire ce qui se passe, la plupart du peuple juif est en train de chercher son Messie du côté de Jésus. Pas du côté d'un rabbin avec une grande barbe, un chapeau et des crôles. Vous avez compris ? Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que la parole de Dieu est comme du miel. Du lait et du miel. Pourquoi est-ce que quand les Juifs, les Hébreux, sont arrivés dans le pays de Palestine, la terre promise, pourquoi est-ce que Dieu leur a dit que c'est un pays où il y a le lait et le miel ? Il faut bien se dire que l'archéologie nous montre que pendant plusieurs siècles, au temps des juges, les Hébreux étaient pauvres, ils vivaient au-dessus des collines avec leurs bâtons et leurs moutons. Dans la vallée, il y avait les Cananéens avec des maisons en pierre, la forge, les outils, les armes. Et les Hébreux, ils n'étaient pas fiers, les Cananéens étaient plus costauds qu'eux, plus organisés. Quand Dieu a donné la victoire à David, c'est parce qu'il est tombé des grêlons sur l'armée des Philistins. Il y a eu des orages, il y a eu des interventions divines pour briser les Cananéens. Et après, ils ont eu des armes. Mais d'abord, ils n'avaient pas les armes. Il fallait compter sur Dieu. C'est Dieu qui est intervenu pour briser la superpuissance qui était là sur place. En attendant, pendant plusieurs siècles, il y avait des dangers. C'était de marier les garçons avec les filles cananéennes, ou, etc., faire des échanges, des mariages mixtes, et perdre toute image de Dieu, tout respect de Dieu. Et venir dans la religion cananéenne, qui était plus facile. Il y avait de la prostitution sacrée, il y avait des meurtres, il y avait des sacrifices humains, il y avait de la sorcellerie. Tout ça s'intéresse. Encore aujourd'hui, dans nos sociétés, tout ça, ça revient. Alors, ces hommes ont eu des juges, des prophètes, pour les rassembler autour de Dieu, à l'entour de la révélation. Ok ? Et pourtant, Dieu avait dit, cette terre-là, il y a le lait et le miel. Pourquoi ? Je vois ça très concrètement. Quand ils sont sur les collines, ils n'ont pas le magasin Intermarché ou Deleuze pour aller chercher les courses. Hein. Okay. Ils ne peuvent pas aller chez les Cananéens, prendre leur blé et leur viande et tout. Ils ont les moutons. Si vous regardez bien, si vous avez déjà vu ça sur des films, vous faites attention, ceux qui vivent pauvrement dans le désert, dans les collines, avec leurs moutons, ils prennent le lait. Ils prennent le lait. Avec le lait, ils font du fromage. Dans le lait des moutons, il y a énormément de vitamines. Et puis, l'archéologie nous a prouvé qu'il y avait énormément de ruchers à cette époque-là. Mais je suis abonné à une revue juive, et j'ai vu ça, on a retrouvé des gros ruchers. Les Hébreux avaient, dans des vallées, cachées, dans des rochers, ils avaient des ruches, et ils avaient du miel. Donc, le lait et le miel ont été leur nourriture essentielle. Et la foi. Et la foi en Dieu qui a fait des promesses. Le vrai juif, il attendait. N'est-ce pas ? Le faux juif, il mariait ses enfants avec les Cananéens. Puis, pour finir, ça dérapait, ça finissait mal. Alors, le lait et le miel suffisaient. Et Dieu, surtout. L'attente du Messie. Une vie sainte. Une foi dans le Dieu créateur. Le Papa du ciel. Quand ces braves hommes ont été, et ces braves femmes, et leurs enfants ont été éprouvés, ils ont prié, ils ont crié vers Dieu pour qu'il accomplisse ses prophéties. N'est-ce pas ? Et puis, tout d'un coup, il y a eu Samuel, il y a eu David, et puis il y a eu tous les prophètes, hein, et il y a eu des bons rois aussi, même s'il y en a eu de très mauvais, il y a eu des très bons rois. Vous voyez bien que la foi est un don de Dieu. Mais il est toujours dans les difficultés, il est toujours dans les épreuves, il est toujours dans les tribulations. Les tribulations, qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples avant de partir. Jean chapitre 16, verset 33. Jean chapitre 16, verset 33. Habituez-vous aux tribulations. Apprenez à vos enfants à avoir une foi solide. Et vous-même, les amis, nous-mêmes, le lait et le miel doivent nous suffire. Si on veut tout ce qu'il y a dans ce monde-ci, si on veut tout ce qu'il y a dans ce monde, on abandonnera Dieu. On sera idolâtre. Il faut se contenter du lait et du miel. Il faut savoir attendre la venue de Jésus. Jean chapitre 16, verset 33. On va commencer au verset 32. Voici, l'heure vient, elle est déjà venue, vous serez dispersés, chacun de son côté. Vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Comment un Hébreu, dans les collines, alors que les Cananéens étaient bien plus costauds, ils avaient des armures, des épées et tout, pouvaient croire que leur Dieu est le Dieu de la victoire, le Dieu puissant, créateur. Seulement dans une vision de foi complète. C'est la même chose pour nous. Nous sommes après la résurrection, nous n'avons pas vu Jésus en chair et en os, juste les jours qui ont suivi, avant qu'il monte au ciel, après la résurrection, nous sommes post-résurrectionnels, nous n'avons pas de perception sensible de Dieu. Et pourtant, qu'est-ce qui peut se passer chez nous dans notre vie qui montre que Dieu est là? Eh bien, vous prenez Luc, chapitre 24. Nous avons des signes de Dieu. Luc 24. Vous connaissez ce récit des deux disciples qui partent de Jérusalem complètement déçus et qui partent vers Emmaüs. Ça, c'est la situation de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Beaucoup. Et puis j'en finis là, mais prenez bien clairement la température de la vie d'aujourd'hui, c'est la même chose. Et regardez où ces deux disciples retrouvent courage et vie. Comment ils reprennent courage et vie, force, espérance? Regardez, Luc 24, verset 13. Voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé, donc mort et résurrection de Jésus, de tous ses miracles, etc., mais aussi l'échec de Jésus. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tristes? D'abord, ils se sentent seuls, ils croient à l'échec de Jésus. Combien de chrétiens ne croient pas à ça aujourd'hui ici en Europe, hein? Échec de Jésus, échec du christianisme. Combien? Mais ils sont imprégnés de ça. Comme ça. Les chrétiens qui se traînent et qui n'ont plus de force. Alors, leurs yeux étaient empêchés de reconnaître. Impossible d'avoir une vie réelle avec le Seigneur. Impossible de voir où il agit dans la société. Impossible. Dieu est absent. Comme on leur proclame qu'il est absent, ils se laissent gagner par ça. C'était la même chose à cette époque-là. Tout le monde se tapait sur le ventre en disant « On s'est débarrassé de Jésus, de Nazareth, et c'est fini. » Et ceux qui avaient cru en lui étaient désolés. Eh bien, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, ils vivent trop dans la désolation. L'un d'eux, verset 18, nommé Cléopas, se répondit « Es-tu le seul qui séjourne en Jérusalem ? Ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci. » Donc, quand quelqu'un qui a un peu de christianisme dans son cœur, rencontre un autre chrétien qui parle de Jésus. Tu es à peu près le seul que je connaisse qui parle de Jésus, tu es à peu près le seul, mais tous les autres, ils ont l'impression que c'est une exception. Ils ne voyaient même pas que celui qui vient vers eux, le Christ est avec lui. Ils ne voyaient pas que cette personne, le Christ l'a envoyé vers eux. Il y a beaucoup de chrétiens, quand ils rencontrent un chrétien, ils ne se rendent pas compte que c'est le Christ qu'il envoie vers eux. Quand un chrétien, aujourd'hui, dans notre société, rencontre un chrétien qu'il ne connaît pas, Il ne pense pas que c'est le Christ qu'il envoie vers lui. Et souvent, ce qui se passe, c'est que le chrétien qui va vers lui ne pense pas que l'autre, il aurait besoin qu'on parle de Christ, qu'on prie ensemble, qu'on parle du Seigneur. Non, on va parler de la pluie et du beau temps. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est comme une voiture, on a crevé les quatre pneus et on roule sur les jantes. Je voudrais aller jusqu'en Russie avec une roue, des voitures, des pneus qui roulent sur les jantes. Pourquoi? Parce que les pneus ne sont pas gonflés. En plus, je les ai crevés moi-même. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se rendre compte que quand on rencontre quelqu'un, il n'y a jamais de hasard. Est-ce que c'est Dieu qui envoie cette personne vers moi? Qu'est-ce que nous pouvons partager ensemble? De qui pouvons-nous parler? D'abord du Seigneur Jésus. Il faut prendre l'habitude, entre chrétiens, de partager l'expérience de Christ. Mais on partage l'expérience de la maladie, le partage des soucis que les enfants apportent, de la maison qu'on bâtit, des enfants qu'on n'a plus parce qu'ils sont grands et puis ils font n'importe quoi. On se distrait soi-même. On se laisse glisser sur toutes les peaux de banane et sur les savonnettes qu'on a mis nous-mêmes alentour de nous. Nous sommes des incrédules. Il faut faire attention, les amis. Il faut se méfier de notre incrédulité. Alors, pas étonnant qu'on soit triste et qu'on n'évangélise pas, si on fait ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, ce brave homme-là qui ne reconnaît pas? Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va prendre la parole de Dieu. Il va leur expliquer que Jésus, ce n'est pas par hasard qu'il est venu, il a accompli des Écritures. Bon, ça les barbe un petit peu. C'est comme les chrétiens ici en Occident, hein. Quand il arrive un Américain qui est missionnaire, ou moi qui... vivement qu'il est fini, hein. Hein? Mais non. Alors, à un moment donné, Jésus dénonce quelque chose, verset 25, aux hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit les prophètes. Oui, le terrain pourri de notre Occident, c'est qu'on ne croit pas aux prophéties. Parce que Origène l'a enseigné, parce que l'Église catholique en fait un dogme. Et parce que le diable en fait un dogme. Si on retire les prophéties de la Bible, on retirait trois quarts de la Bible. Si on retire quelque chose de trois quarts de la Bible, c'est encore la Bible. On va retourner chez nous à Gambry au soir. Imaginez que pendant le temps qu'on est parti, il y en a un qui a pris le volant, les quatre roues, le réservoir, le moteur. Il nous reste la carcasse sur le trottoir. On s'est retourné à Gambry, nous? Mais une Bible sans les prophéties, c'est quoi? C'est une carcasse de Bible. Alors, il faut faire attention que tout ce qui est dans la Bible, entièrement, est nécessaire pour avoir de l'intelligence et pour que notre cœur ne soit pas lent à croire. Que notre cœur, il ait du peps qui tourne à fond. Et pourquoi qu'il tourne à fond? Eh bien, regardez. Regardez, la preuve qu'il tournait à fond. Verset 32. « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Les amis, aujourd'hui, il faut enseigner les personnes dans l'accomplissement des prophéties de l'Écriture. Il faut que tous les chrétiens ici fassent un programme d'études et connaissent les prophéties, connaissent l'application. Et quand ils rencontrent des copains et des copines, adieu les mouches, adieu les factures, hein, facteur égale facture, la boîte aux lettres, les factures, eh bien on oublie un peu ça, on va d'abord, mais Seigneur, quand est-ce que je peux parler à cette personne des Écritures, de l'accomplissement des Écritures, pour qu'elle connaisse Jésus? Il faut mettre des priorités, les amis. Autrement, on restera toujours cinq chrétiens par-ci, par-là, ou deux, ou tout seul. Il faut absolument, pour que les autres en face aient le cœur brûlant et aient de l'intelligence, et qu'ils se jettent dans les bras de Dieu, qu'on leur montre l'accomplissement des Écritures. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette semaine? Nous, depuis 15 jours, bien qu'on ait été partis à Angers à droite et gauche, il y avait un couple avec deux enfants. Eh bien, deux études bibliques. J'ai pas eu le temps autrement. J'ai des autres contacts et tout, mais c'était clair, je savais qu'ils venaient aussi pour ça. Ils ont fait des visites, ils ont été voir beaucoup de monde, mais deux études bibliques de 3 heures. Il faut d'abord les écouter pour voir ce qu'ils veulent. Où ils en sont. Ok? Ça, c'est fort important. Discerner si réellement ils ont soif, si leur cœur est préparé. par Dieu, pas par moi. Et pratiquement, à la deuxième réunion, il était presque minuit, ma femme descend en robe de chambre, elle dit, Jeannot, tu dois les laisser partir, ils partent demain à 7h du matin, ma femme, hein, ils doivent partir à 7h du matin, tu te rends compte, ils vont au sud de la France, ils doivent conduire, ils vont être fatigués. Et puis ma femme, je dis, viens, assieds-toi. C'était le moment où, sur les quatre, il y en a trois qui ont accepté de donner leur vie à Jésus. L'homme, la femme et le gamin de 14 ans. Et croyez bien que ma femme n'a plus dit, on remonte coucher. C'était la consécration de leur passage. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas venus pour entendre des salades. Mais comment est-ce qu'ils osaient le dire? Comment est-ce qu'ils osaient l'exprimer? Quand quelqu'un est triste, quand quelqu'un est abattu, il ne sait pas dire ce qu'il a besoin. Quand quelqu'un a été enseigné que les prophéties n'ont pas de consistance, qu'il n'y a rien dans l'Écriture que le petit Jésus de Nazareth, Noël, Pâques, les cloches, les chocolats, comment voulez-vous qu'il comprenne? Il va venir timidement, pauvrement vers vous, et puis tout d'un coup, mais il a faim, mais il a soif, mais surtout ne ratons pas la deuxième réunion, c'est peut-être la bonne. Alors, les amis, quand vous allez vers quelqu'un, première chose, vous n'y allez pas tout seul. Demandez à Jésus d'être entre la personne et vous. Vous n'avez pas de puissance sans le Seigneur Jésus. Jésus a dit, suis-moi. C'est pas Jésus derrière et moi avec la personne. Non, c'est la personne, c'est Jésus et moi derrière Jésus. C'est important, c'est pas que psychologique. C'est spirituellement la vérité. Quand vous avez à cœur d'être avec le Seigneur Jésus, en présence d'une personne, vous allez voir des signes de Dieu. Vous allez voir que le cœur sort de la tristesse. Vous allez voir que le cœur sort de l'ignorance. Vous allez voir que le cœur, il brûle, et il va vers Dieu. Et puis, après, il est libre, hein ? Libre. Libre, mais aidé de Dieu. C'est-à-dire, tout d'un coup, vous dites peut-être, Seigneur, que c'est aujourd'hui, l'accouchement. Peut-être que c'est dans 2 ans, dans 5 ans. L'accouchement, c'est quoi ? La nouvelle naissance. Ils ont envie. Mais le monsieur, alors qu'il était musulman, hein, le monsieur, Kader, il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Comment qu'on va s'y prendre, pasteur ? Pasteur, il était là, hein ? Mais comment on va s'y prendre ? On ne peut pas rester comme on est. Mais je dis, on va prier. On va prier, on va demander à Dieu qu'il fasse tout. Et pratiquement, c'est ce qui s'est produit. Alors, les amis...